Radio Okapi.
Le journal Bibi Mokokole.
Okapi.
À la une de l'actualité, le démantèlement dimanche du bastion du chef de guerre Gédéon Moutanga au village de Kibawa au Katanga. Bilan, 4 armes AK-47 et plusieurs autres effets militaires récupérés. En Ituri, plus de 400 000 déplacés de guerre vivent encore dans des conditions humanitaires très précaires. Déclaration faite aujourd'hui mardi à Bunia par le Bureau de coordination des affaires humanitaires en Ituri à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire. La province orientale vient de réactiver son plan de contingence de la fièvre hémorragique à Ebola, une activité menée par le ministère provincial de la Santé en partenariat avec l'OMS et l'UNICEF. Bienvenue dans ce journal. Au nord Katanga, pour commencer, ce démantèlement dimanche du bastion du chef de guerre Gédéon Moutanga au village de Kibawa. Bilan, 4 armes AK-47 et plusieurs autres effets militaires viennent d'être récupérés des groupes Mai Mai. Le commandant de la 61e brigade des FARDC promet la poursuite des opérations jusqu'à la pacification de la région. Les détails avec François-Xavier Mibé.
L'attaque des FARDC sur le bastion de Kibawa est survenu dimanche autour des 11h locales. Le commandant de la 61e brigade de FRDC, qui livre cette information, indique que les affrontements avec les éléments de la garde rapprochée des Gédéon Moutanga ont duré 1h30. Le colonel Stanislas Kabezia dit en gofort, note par ailleurs que certains effets personnels du seigneur de guerre ont également été récupérés au cours de cette opération.
Du côté du triangle de la mort qui englobe Manono, Moba et Poto, nos hommes sont bien arrivés à Kibawa. Gédéon a réussi à s'échapper. Nous avons récupéré 4 armes AK-47, une arme RPG-7 et le drapeau du Katanga. Nous sommes déterminés à conclure la paix sur ces coins de la province.
Le commandant de la 61e brigade de FRDC ajoute par ailleurs que notre front est en ce moment même ouvert au nord du Katanga. Les opérations militaires ciblent à présent les positions de Maïma de Yakutumba qui insécurisent la zone.
Nous poursuivons aussi les opérations militaires sur toute la région sous notre contrôle. Au nord de Kalemi, nous avons pourchassé les groupes de Yakutumba et continuent de récupérer les villages passés sous leur contrôle. Les bilans des opérations, vous l'aurez à la fin.
Kalemi, François-Xavier Mibé, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, la troisième phase des opérations militaires dans le territoire de Walikale a été lancée depuis hier lundi. C'est sur l'axe Itebero-Ombo Nord, long de 78 kilomètres. Déjà, les forces armées de la RDC ont pu récupérer hier, en début d'après-midi, la localité de Musenge, 75 kilomètres vers le sud de Walikale Centre, dans le groupement Mbakano. Les détails avec Gisèle Cage.
Musenge est le quartier général de Mai Mai Raya Mutomboki, dirigé par un dénommé Saddam. Pendant longtemps, ils ont administré cette partie de la province, obligeant ainsi de milliers de populations à se déplacer vers Ombo Nord. Selon les responsables FARDC à Walikale, c'est hier lundi vers 13h locales que l'armée régulière a fait son entrée à Musenge après plusieurs heures de combat. L'objectif des FARDC est de débarrasser tous ces axes de combattants Raya Mutomboki, affirme le même responsable. Il précise que les FARDC sont présentement en train de consolider leur position à Musenge et que ces opérations contre le Raya Mutomboki pourront se poursuivre sur ces axes à partir de jeudi. D'autre part, le chef de la milice Nduma Defense of Congo et ses hommes se trouveraient au nord-est de la rivière Oso, dans la zone de Oninga, Katanga, Apiti et Irumba. Le commandant du 84e secteur FARDC déclare qu'ils sont pris en étau par les troupes FARDC, notamment celles du 85e secteur à Lubero. Goma, Gisèle Cage, Radio Kapi.
Entre-temps, dans le sud Kivu voisin, le questeur adjoint de l'Assemblée nationale de la RDC appelle les habitants du territoire de Kalehe à contribuer à la pacification de leur territoire. Appel lancé hier au cours d'une conférence de presse. Selon Kaboy Buivou Jean Bosco, la jeunesse ne doit plus céder à la manipulation de certains politiciens. Ces politiciens utilisent les jeunes dans la brousse pour leur propre intérêt. Pour lui, la réponse à cet appel devra contribuer à la pacification de Kalehe. Buivou Jean Bosco est au micro d'Ezekiel Batoumike de la radio communautaire Bubandano.
Je demande à la jeunesse de Guayaquil, que ce soit la jeunesse de Zirado, que ce soit la jeunesse de Yo Plateau, de bien vouloir cesser avec cet esprit-là des armes, parce que les armes n'arrangent rien, et les gens sont en train de vivre, de mourir, et on appelle à la conscience de tout le monde pour qu'on puisse prendre le chemin de la paix. Il y avait déjà une académie, le chef de l'État est en train de s'investir pour qu'il y ait la paix partout dans notre pays. Nous devons suivre ce chemin-là. Le pays est déjà sur la voie démocratique. Pourquoi ne pas chercher le pouvoir par la voie démocratique? Politicien qui manipule la jeunesse doit savoir qu'il est ennemi qui soit décalé. Nous devons sensibiliser tous les parents, toute la population pour que la jeunesse puisse la jeunesse manipulée pour rien. C'est elle qui est en train de mourir. Et quand il y a des opportunités, ce sont les mêmes politiciens qui en bénéficient. Et ce n'est pas cette jeunesse qui va bénéficier de ces opportunités-là.
Direction l'Ituri, plus de 400 000 déplacés de guerre vivent encore dans des conditions humanitaires très précaires. Déclaration faite ce mardi à Bounia par le Bureau de coordination des affaires humanitaires en Ituri à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Cette situation sévit notamment au sud d'Iromou et en territoire de Mambasa où les FARDC poursuivent la traque contre des groupes armés encore actifs. Selon le responsable local de Houcha en charge des communications, plusieurs défis restent à relever dans ces zones où ils se pose des besoins urgents en eau potable, en médicaments, notamment pour des cas de viol, des infrastructures sanitaires et scolaires. Bertrand Ongaïlem est au micro de Jean-Claude Loki.
Ce sont les crises liées donc à des problèmes d'eau, de protection, de vivres, également les problèmes de viol et de violence sur les femmes, etc. C'est vraiment une récurrence et la communauté humanitaire essaie de continuer à sauver des vies, comme nous avons bien le dire, donc pour essayer un peu de donner quelques réponses à ces différentes crises. Aussi longtemps que les populations civiles seront donc prises en partie, donc dans ces affrontements militaires, et il va sans dire que nous allons toujours assister à des déplacements, et qui parlent donc de déplacements, parlent donc des familles qui sont parties complètement démunies, qui vivent dans la précarité, et qui vivent sans trop moyen d'avoir de l'eau potable. Les enfants qui ne pourront pas aller à l'école parce que justement, ils ont quitté leur zone d'origine et se trouvent de l'autre côté où la capacité d'accueil ne suffit pas. Les infrastructures scolaires ou sanitaires qui sont complètement détruites et qu'il faut d'abord essayer de réhabiliter, essayer un peu de voir les médicaments qui manquent un peu dans certains centres.
Et puis, la province orientale vient de réactiver son plan de contingence de la fièvre hémorragique à Ebola, une activité menée par le ministère provincial de la Santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Bien que le processus de mobilisation des ressources soit en cours, des kits de protection, de prélèvement et autres sont en train d'être entreposés dans les pôles de santé de Bounia, Isiro et Kisangani. À Kisangani, un briefing a été fait le week-end dernier au personnel de santé de l'hôpital du Cinquantenaire et se poursuivra dans d'autres structures médicales. Les points focaux du service de l'hygiène aux frontières ont été également mis en alerte. Docteur Jean-Marc Mabindi, médecin inspecteur provincial, revient sur les motivations de l'activation de ce plan de contingence au regard des cas identifiés par le passé en province orientale. Ses propos sont recueillis par Dorcas Kanko.
Comme vous le savez, depuis plus de 3 mois, le monde, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, connaît une montée fulgurante d'épidémies de fièvre hémorragique Ebola où 4 pays sont touchés avec beaucoup plus de cas. Donc c'est à cause de ça que notre pays a déjà connu des expériences malheureuses. La province orientale, notamment, a connu l'épidémie d'Ebola en 2012. Nous nous sommes dit que c'était important pour nous de voir notre plan de contingence, voir qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan de la coordination, soit avant, pendant et après l'épidémie, si jamais cela arrivait. Également, mettre en place des dispositifs pour pouvoir donner des réponses adéquates le moment venu. Nous devons être en alerte maximale. Donc, en moindre cas, dès que au niveau des structures, on se rend compte qu'il y a des personnes qui se présentent avec des signes tels que décrits pour le cas des fièvres hémorragiques Ebola. Il est essentiel de donner l'information pour que nous puissions bien cerner le problème et puis chercher à faire une investigation éventuellement et informer l'autorité compétente.
Revenons sur le dossier de 250 minibus Hyundai achetés par le gouvernement congolais pour les accorder à crédit aux privés membres de l'APVCO. Comme vous le savez, une convention cadre de partenariat a été signée hier lundi à Kinshasa entre les deux parties. Un minibus Hyundai neuf est vendu à crédit et sous condition aux membres de cette association au prix de 57 684 dollars, payable mensuellement sur une période de 4 ans. Outre le versement préalable de 15% 100% du prix de cession du véhicule par le bénéficiaire, il y a 10 conditions fixées par le gouvernement pour accéder à ce crédit. Déjà, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba, prévient qu'aucun achat ne sera conclu sur base des considérations politiques, ni tribales et moins encore amicales. Plus de détails avec Innocent Olinga.
La première condition pour bénéficier de ces minibus Hyundai à crédit, il faut être transporteur et membre de la PFCO avant le 30 juin 2014 et être recommandé par elle. Il faut payer un apport initial de 15%, soit près de 8 700 $. Il faut également s'engager à libérer mensuellement 1 200 $ de remboursement. Il faut accepter d'exploiter sur les lignes convenues dans les contrats. Il faut engager des chauffeurs détenteurs d'un vrai permis de conduire et qui seront formés par les Français de la RATP. Il faut également produire une attestation des résidences en cours de validité et produire la preuve minimale de solvabilité, un bien immeuble ou un compte en banque. Il faut aussi produire pour les bénéficiaires mariés l'acte de mariage indiquant les régimes matrimoniaux. Un retard de paiement de 10 jours donnera lieu à une mise en demeure par les cabinets comptables et en cas d'absence d'exécution dans les 10 jours suivant la mise en demeure, le véhicule sera retiré par voie de huissier de justice et tout l'argent déjà versé ne sera pas remboursable. Mais pour permettre aux acheteurs de parer aux aléas du débit d'exploitation, un moratoire de 2 mois leur est accordé avant le début effectif du remboursement mensuel.
C'est la fin de ce journal de midi sur Radio Capi. Merci de l'avoir écouté.
Au Capi, au Capi, au Capi.